me a cigarette then. Give me a cigarette.
Salut la compagnie, tu es bien sur le Lloydcast. Je suis Lilian Lloyd, auteur, metteur en scène, comédien. Mais ici, je te présente des personnalités que je trouve remarquables et ou inspirantes. Le Lloydcast est un audio bimensuel publié les jeudis. Abonne-toi sur la plateforme de ton choix pour être notifié à chaque nouvel épisode. Pour me soutenir, n'hésite pas à laisser un avis là où tu l'auras entendu, ça m'aidera beaucoup. Bonne écoute. Salut la compagnie et bienvenue sur l'épisode 16. Aujourd'hui, dans Les Remarquables, je reçois pour la première fois un homme d'art majeur. Oui, parce que si j'en crois à Gainsbourg, la peinture est un art majeur. Mon invité est donc un peintre, mais pas n'importe lequel. Il est atypique, tout sauf académique, est-il colérique ? Il est assez bon lanceur de pique, a un charme héroïque, et tu me diras où est le hic ? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir et c'est bien pour ça qu'il est là, Jean-Philippe Burnel. Bienvenue.
Bienvenue, cher ami.
Comment vas-tu ?
Ravi de cette présentation qui m'honore trop, qui flatte trop mon ego d'emblée, comme ça, ça part très fort.
Oui, mais parce que je sais que tu es un faux modeste, donc j'essaie de flatter ta fausse modestie.
Tu es très fort pour ça.
Jean-Philippe, il y a quelques petites traditions dans le Lloydcast. La première, c'est de te demander qu'est-ce que tu veux boire. Et sachant qu'on est via Skype, tu peux me demander ce que tu veux. Je vais te servir virtuellement tout ce que tu désires.
Bah juste un petit thé nature, thé vert, ça ira très bien.
Alors toi, tu es de Cherbourg.
Pour moi, Cherbourg, c'est le centre du monde. Si je fais 20 km autour, je me sens déjà à l'étranger, quoi. Je me sens déjà un peu perdu.
Alors j'ai un peu abusé dans ma présentation, mais c'est vrai que depuis que je t'ai rencontré, je trouve que tu es quelqu'un d'absolument passionnant. Pourquoi ? Parce que t'as eu un vrai métier. Quand je dis t'as eu, c'est parce que t'es un jeune retraité, très très jeune retraité, et ça tu vas nous en parler. Et à côté de ça, j'ai découvert aussi un homme un vrai peintre et qui a une patte assez incroyable. Et plusieurs fois, je suis allé aussi dans ton atelier, dans tes ateliers, enfin dans ton gros atelier que tu as maintenant. Et en ayant vu ce que tu as fait, je me dis ce type est assez incroyable. Et dans les discussions qu'on a pu avoir ensemble, ta vision aussi de l'art me touche tout particulièrement. Donc, ton vrai métier, ça a été quoi ?
Mon vrai métier, ça a été de travailler dans le nucléaire. Quand on est à Cherbourg, on sait qu'on est dans un endroit où on est entouré d'usines, en particulier sur on travaille pour le nucléaire. Et moi, je considère ça comme une chance. J'ai travaillé dans l'usine Areva de La Hague, et pour moi, c'est une chance. Une vraie chance, parce que j'ai aimé travailler là-bas, j'étais impressionné par le lieu, j'y ai trouvé beaucoup de choses qui m'ont construit. Et bien sûr aussi, ça m'a, à un moment donné, la peinture a rejoint le côté technicien. J'ai peint l'usine.
Donc justement, la peinture, est-ce que c'est né à quel moment c'est né dans ta vie ce désir de peinture
Moi, je pense que c'est pareil pour plein de gens. C'est une histoire de rencontre. Il y a maintenant plein d'années, bien sûr, j'ai rencontré un peintre qui m'a en fait ouvert les yeux, plus que d'apprendre des techniques. C'est des conneries de dire qu'on va prendre des cours, ça veut rien dire. Ce qui compte, c'est d'avoir des gens qui vous ouvrent, qui vous donnent des envies, et c'est venu comme ça. Puis après, c'était allé crescendo, tout en travaillant dans l'usine où je travaillais la nuit, les week-ends. J'avais du temps, beaucoup de temps pour faire autre chose, et moi, je me suis mis à peindre. Voilà, tout simplement. C'est vraiment très simple comme façon de se mettre à la peinture, quoi. Du temps, et puis voilà, quoi.
Mais t'as jamais pris de cours de quoi que ce soit?
Si, bien sûr, mais des cours, c'est un complément, c'est des techniques. J'étais au Beaux-Arts, un peu, pour dessiner, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut être le meilleur technicien du monde, si on n'a pas des envies, des façons d'essayer de faire des choses personnellement, tout seul, sans copier les autres, c'est pas la peine, quoi. Il faut pas, je me sens pourtant pas très, très original, mais, c'est pas la technique qui fait de moi un peintre.
Et justement, qu'est-ce qui fait de toi un peintre?
Eh bien, c'est simplement la curiosité, l'envie finalement quand je suis dans la nature, je vois des choses et j'ai un tel plaisir de les voir que j'ai envie de les peindre. Quand je vois des gens, quand je vois des usines, quand je vois tout ce qui m'entoure, j'ai cette envie permanente de dire comment je peux peindre ça. Et donc voilà, c'est simplement l'envie qui parle un peu, moi me donne envie de peindre. D'autres, ça, pour ne pas nommer les meilleurs comme toi, ont envie d'écrire. Et ben moi, je me sens incapable de ça. Je me sens juste capable de peindre.
Mais est-ce que quand tu étais plus jeune, même si tu es un très jeune retraité, mais quand tu étais vraiment gamin, etc., est-ce que tu crayonnais, tu faisais des choses comme ça déjà?
Bien sûr, mais pas plus que les autres. Je pense qu'en fait, quand on est jeune, on fait tous un peu de dessin, un peu de musique, un peu de ceci, un peu de cela. Peut-être plus la peinture pour moi, mais quand on est jeune, on s'intéresse plus aux filles, au foot, voilà. Donc moi, c'était plutôt un peu ça, quoi. C'est plus adulte, hein, vers 20, 30 ans, on va dire, que j'ai rencontré, que j'ai découvert, que tout doucement, je me suis intéressé à la peinture.
Et tu t'es intéressé à la peinture à travers ce qu'on appelle des maîtres, ce genre de choses?
Oui, c'est vraiment des hasards, des découvertes par hasard de telle expo, de tel livre aussi, tel livre de peinture, tout simplement. Et puis des expos, bien sûr, quand même, ça, il y a des choses qui comptent en expo qu'on découvre. Mais globalement, j'ai pas eu l'impression d'être une influence quelconque. Peut-être plutôt la peinture italienne, parce que ça, je recommanderais jamais assez. Si quelqu'un veut juste voir de la peinture sans faire n'importe quelle expo parisienne ou autre, il suffit d'aller à Florence, et là, on est dans quelque chose qui paraît évident, une espèce de comment dire, ça touche à l'essentiel. La peinture italienne, ça peut suffire pour un peintre, même si les gens sont nature rejettent presque la peinture maintenant. La peinture en soi, ça devient très ringard si on compare un peu à tout ce qui se passe dans l'art conceptuel et les installations, l'art moderne. En fait, tout ça, pour moi, c'est vraiment du charabia, quoi. C'est vraiment des gens qui s'éloignent de tout ce qui est la nature, qui est l'humain et tout ça. J'ai un mal fou, moi, à rentrer dans toutes les démarches contemporaines et reste un peintre, artisan peintre, et ça me convient très bien.
Et justement, comment tu définirais ton style, même si j'imagine qu'il a pu évoluer, toi tu... Alors, pour essayer de décrire un peu aux personnes qui nous écoutent, assez souvent, il y a des humains dans ce que tu peins.
Oui, c'est ça. En fait, c'est le rapport à l'homme, le rapport à la nature, le rapport aussi à des, comme je disais, de l'architecture. Mais globalement, c'est le rapport direct. C'est-à-dire, c'est le lien, c'est la connexion avec ce qui m'entoure. Donc, mais je me sens très classique parce que, en fait, j'ai besoin toujours de ce rapport. Je peux pas rentrer dans une démarche intellectuelle pour m'exprimer. La démarche intellectuelle, elle peut arriver après. C'est-à-dire que quand, par exemple, j'ai peint récemment un chemin de croix, ou quand j'ai peint plus avant des bonobos ou des choses comme ça, j'avais vraiment juste le rapport esthétique aux choses. Je trouvais ça beau esthétiquement, donc j'avais envie de le peindre. Et bien sûr, après est venue une espèce de réflexion, pourquoi je fais ça, et dans quelle direction je peux aller, qu'est-ce que finalement ça peut m'amener, tout doucement, ça m'amène vers des choses, quoi. Mais la base, c'est de partir instinctivement sur quelque chose de simple, comme cueillir une fleur. Qu'est-ce que ça va être, toi, par exemple, en tant qu'auteur, qu'est-ce que le fait de cueillir une fleur peut t'amener à écrire après? Et ben moi, c'est d'abord dessiner, peindre, et puis après, on voit où ça nous emmène. Mais c'est, faut pas d'abord réfléchir à comment je vais cueillir la fleur, quoi. Voilà. Moi, pour moi, le danger de beaucoup de choses, il est là, quoi.
On a un ami commun qui nous a fait nous rencontrer, Aymeric, qui était l'invité de l'épisode 10 d'ailleurs. Et je trouvais ça assez amusant je trouve ça toujours très amusant quand on est tous les trois, puisque Aymeric est poète, bon, moi je suis auteur et toi t'es peintre. Et j'aime beaucoup comment on échange autour de nos arts respectifs. Et je sais que lui, quand il décrit par exemple la Hague, puisque assez souvent vous êtes tous les deux aussi, je pense, assez inspirés par la Hague, il le fait toujours avec des mots très précis, très très pesés, on sent qu'il cisèle en permanence. Toi, quand tu vas peindre, est-ce que tu vas passer par plein d'étapes et où est-ce que tu vas aller tout de suite à l'essentiel dans ce que tu vas peindre? Est-ce que tu te dis, mon focus, il est sur... tel endroit, peut-être effectivement tu parles de cette fleur, ou est-ce que tu vas peindre, est-ce que tout ce qui est autour a une importance?
Oui, en fait, je crois que c'est, pour moi, c'est la sensation que se dégage de l'endroit. Quand on est par exemple dans la Hague, que tu connais aussi bien, hein, c'est pas anodin, quoi. C'est pas un endroit anodin. C'est, on est un peu comme si on recevait une claque. Alors, bien sûr, c'est pas toujours de la tempête, du vent, tout ça, mais globalement, il y a une sensation de l'endroit qui nous touche, quoi. Et c'est ce que moi, ce qui m'intéresse dans la peinture. Ça part pas comme une brique de quelques mots qui construisent quelque chose, la poésie, des choses comme ça. Ça part, moi, plutôt une sensation globale. J'aime pas le détail, j'aime pas la précaution. Tout ce que je fais, c'est tout sauf de la précaution. C'est-à-dire, c'est une espèce de... moi, je considère comme un bourrin. Hein. Non, mais c'est vrai, j'aime bien ce terme-là, parce que ça correspond à quelque chose qui est plus... Ah, comment dire, c'est du domaine du ressenti un peu grossier, quoi. C'est après, peut-être qu'on peut rentrer dans les détails, mais globalement, moi, j'aime exprimer une espèce de puissance, une espèce d'énergie. C'est ça qui m'intéresse d'exprimer dans la peinture, et je n'y arrive quasiment pas. Parce que entre le fait de vouloir exprimer par la peinture un paysage tel qu'on le ressent et ce qu'on peut produire sur une toile ou même une photo, qu'est-ce qu'on veut, pour moi, il y a un décalage énorme. Et d'ailleurs, ça c'est ma manière de critiquer un peu l'art moderne, mais si justement la plupart maintenant des produits purs, des beaux-arts et tout ça, ne font pas de peinture, ne font plus de dessin, ne font plus rien, c'est parce qu'ils ont très bien compris que c'était quasiment impossible de faire quelque chose de bien et de quelque chose de nouveau. Donc, ils sont partis dans des considérations intellectuelles, etc. Moi, je pense qu'il y a une sorte de renoncement à la peinture, justement, parce que c'est très difficile. C'est très difficile d'exprimer ce qu'on ressent, ce qu'on peut voir dans la nature. Je crois qu'il y a une espèce de flemme et de facilité à faire des choses intellectuelles dans l'art. Voilà. Moi, ça, c'était ma petite.
Mais c'est très bien. Et justement, alors, je sais pas si ça va rebondir sur ce que tu viens de dire, mais j'ai découvert qu'au fur et à mesure, dans la Hague, enfin, en tout cas, sur cette manche-là, c'était quand même foisonnant de peintres. Avec différents, alors je ne veux pas parler tant du peintre amateur, mais je parle du peintre qui, comme toi, expose et peut vendre à un moment ses peintures. Je me rappelle à l'époque aussi, j'avais rencontré Pascal Lalloy, qui est maintenant davantage vers Rennes, je crois. Comment tu te situes et comment ça fonctionne ce microcosme de peintre cher bourgeois et dans la Hague et tout ça?
Ben, déjà, oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs niveaux, on va dire, artistiques, mais peu importe. Moi, j'aime bien cette idée que finalement tout le monde a raison de peindre, de photographier, d'écrire. Enfin, mais bien sûr, après, le nivellement se fait. Il y a des gens à tous les niveaux. Moi, je trouve ça plutôt intéressant, plutôt agréable, cette sensation d'être entouré de plein de gens qui pensent à autre chose que de regarder un match de foot, que de picoler de la bière, quoique ça n'empêche pas. Peut-être,
alors, je me sens pas concerné, donc ça va.
Non, mais je veux dire que voilà. Déjà, alors moi, je suis bien sûr à Cherbourg. On est entouré dans vraiment. Il y a une grande quantité de gens qui font des choses, et je me sens dans cet environnement-là. Et au-delà de ça, c'est vrai qu'on se sent aussi loin de tout ce qui est le milieu artistique parisien, Il y a vraiment des décalages qui se font, mais peu importe, parce que qu'est-ce qui compte dans tout ça? Et moi, qu'est-ce qui me plaît finalement, au-delà de savoir si on réussit une toile ou quoi que ce soit, c'est de savoir si on est heureux de la faire, si on a l'impression de profiter, d'être vivant, de faire tout ça. Et voilà, il y a ça. Il y a l'aspect financier, bien sûr. Moi, j'ai la chance d'avoir eu un métier j'ai pas besoin forcément de vendre tout ce que je fais. D'ailleurs, quand je vois ce que je fais, ça intéresse quasiment personne. Hein. Si je voulais vendre de la peinture, je ferais des Mont-Saint-Michel, mais ça, j'ai pas envie. Hein.
Mais justement, est-ce que par rapport à tous ces peintres, est-ce que chez vous, ça crée une émulation ou est-ce que ça crée une concurrence?
Ça crée une émulation et une concurrence, parce que finalement, de toute façon, c'est comme dans tous les domaines. Hein, c'est peut-être même pire que la politique. Tout le monde déteste, mais tout le monde critique tout le monde. Hein. Mais à la fois, il y a aussi un certain respect pour les gens qui font des choses intéressantes ou différentes. Donc moi, j'aime bien plein de gens, et puis j'en déteste beaucoup. Je m'intéresse à assez peu de choses, mais je suis toujours curieux quand même. Je crois qu'en fait, c'est pas une histoire de peinture, tout ça, c'est une histoire de comportement des gens les uns avec les autres. Comment dire? Moi, je me sens bien dans ce que je fais. J'ai l'impression d'être libre, de profiter. Je me sens pas un grand peintre du tout. Je me sens un barbouilleur local. Mais ça suffit à mon plaisir parce que, comment dire? J'ai l'impression de quand même d'avancer dans ce que je fais. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression de faire une expo et puis d'avoir uniquement l'envie d'avoir un petit article sympa dans le journal. À la limite, je m'en fiche un peu. Ce qui m'intéresse, c'est de faire une expo d'abord pour moi, parce que peut-être c'est peut-être différent que le public d'un théâtre et tout ça qui est nécessaire. Moi, j'ai l'impression que je pourrais faire une expo s'il y a des gens, tant mieux. Mais si par contre je suis juste content de ce que j'ai fait, s'il y a presque personne qui peut le voir, eh ben à la limite, c'est déjà pour ça qui me convient. C'est bizarre, hein.
Est-ce que dans ces cas-là, ce serait, on n'est pas loin de l'art-thérapie. Enfin, il y a quelque chose de thérapeutique là-dedans.
Absolument, parce que, alors ça c'est ce que je conseille à tout le monde, aux gens qui savent pas quoi faire de leur vie, faites de la peinture entre autres, parce que quand on se couche le soir et quand on a des problèmes de la journée qui sont des problèmes de couleur, de composition, des trucs, des machins, on se couche, on ferme les yeux, on ne pense qu'à rééquilibrer telle couleur avec telle couleur. En fait, voilà, ça évite de remplir la tête d'autres choses, et c'est vrai que ça a un côté thérapeutique.
Mais je pense quand même que à partir du moment où tu fais des peintures, alors tu pourrais faire des peintures et les exposer dans ton très grand atelier là, et puis c'est tout. Sauf que tu fais quand même une démarche assez souvent. On va parler aussi de ton chemin de croix puisque c'est ton actualité. Assez souvent, le fait de l'exposer, c'est l'amener aux yeux. J'allais dire aux oreilles, mais enfin, en tout cas aux yeux de spectateurs, de personnes qui te connaissent. Ne fais pas le faux modeste. T'as envie de toucher les gens avec tes propres peintures, sachant que, comme toi, tu es aussi touché par d'autres peintres. Donc c'est tout à fait légitime comme, je dirais, comme ambition.
Non, mais tu as raison, en fait. Ce que je voulais dire par là, c'est que simplement, le danger pour moi, c'est de commencer à peindre en pensant d'abord à l'impact que ça peut avoir pour les autres. Mon propre juge, mon propre, comment dire, ma propre, ouais, moi, mon exigence, elle doit être d'abord personnelle. C'est-à-dire que si, par exemple, je peins, je dois d'abord y mettre l'exigence maximum pour moi, sans me dire je vais faire ça comme ça parce que ça va plaire aux autres, etc. Tu vois, il y a ce danger-là. Mais par contre, c'est vrai que le plaisir d'organiser une exposition, d'y penser, d'amener les gens à découvrir, c'est du plaisir. Mais si j'y pense trop, ce que je veux dire, si j'y pense trop, je ne suis pas dans le travail pour moi. Pour moi, c'est un peu comme la récompense que les gens viennent. Et je veux pas penser à un travail de peinture uniquement par rapport au fait que je vais le montrer, etc. Tu vois, je
Non, non, je comprends tout à fait, et je sais pas si j'essaie de faire un parallèle avec ce que je fais moi, c'est-à-dire que la pièce que je veux montrer au spectateur, c'est la pièce qui est apparue dans ma tête au moment où j'en ai eu l'idée, et tant qu'elle ne correspond pas à cette cohérence que j'ai eue, à cette fulgurance que j'ai eue quand elle est apparue, parce qu'elles apparaissent comme ça, personne ne la voit. Voilà.
D'accord. Oui, bah ça se rejoint. C'est effectivement la même chose, hein. Il y a la récompense effectivement du public, et puis ça amène d'autres choses parce que le regard j'imagine, toi c'est pareil. En fait, dans tout ce que tu veux exprimer, ce que tu penses être le message, et ce que après les gens y trouvent, il peut y avoir des choses qui interpellent ou qui donnent envie de composer différemment ou autre chose après. Enfin. Non, mais le rapport aux autres est hyper important, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que la peinture, comme l'écriture, j'imagine, c'est un travail solitaire et que on peut pas être tout le temps dans la projection de ce qu'on va faire, ce qu'on va montrer, mais d'abord avancer pour soi et souffrir, si on peut appeler ça souffrir, parce que pour moi c'est une souffrance, mais je veux dire, faut pas non plus comparer ça avec des choses terribles de la souffrance humaine, quoi. Je veux dire, bon,
Alors, je sais
voilà.
pas si c'est par rapport à ça, à cette histoire de souffrance, j'ai l'impression que tu es quand même un très très gros bosseur. Tu travailles énormément ton art. Sans te dire que tu le travailles, parce que j'ai l'impression que parfois tu sais que tu peins quelque chose Et j'en parlerai plus tard d'une grande anecdote qu'on a ensemble, mais tu peins des choses qui sont des travaux d'études. Tu sais que ça va être des travaux d'études, même si tu dis au début, tiens, ça risque d'être une superbe œuvre d'art, mais à la fin, finalement, j'ai juste travaillé telle couleur ou telle forme ou tel genre de choses. Mais j'ai l'impression que tu rechignes pas au boulot, toi. Tu fais des gammes.
Oui, parce qu'en fait, je me sens pas du tout, me sens, comment on appelle ça? Tu sais, quelqu'un qui travaille beaucoup pour un petit peu de
Les
résultat, là, je
besogneux,
sais
les
plus quoi.
laborieux,
Voilà,
ouais.
je suis laborieux. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai besoin d'en faire beaucoup pour que dans le paquet sorte un petit truc qui me semble intéressant. Et puis, comme je peins grand, j'aime ça parce que j'aime le rapport physique à la peinture. J'aime le rapport, comme toi dans ton sport, t'as forcément le besoin physique de faire des choses. Ben moi, la peinture, c'est vraiment un exercice physique. Avant que ce soit un exercice artistique, c'est d'abord le côté, il faut mettre les mains dedans, il faut y aller, c'est des grandes surfaces, ça fait mal au dos, mal au bras, tu changes de main même.
Et justement, ouais, tu dis, tu peins des peintures qui sont toujours très grandes.
Mais ça, c'est mon côté frimeur. Je reconnais que c'est la volonté d'épater la galerie. Je reconnais ça. De m'épater moi, mais d'épater la galerie. Wow, c'est grand. D'ailleurs, je pourrais te raconter une petite anecdote, c'est que la dernière expo que j'ai fait justement au chemin de Croix, il y a dans deux beaux endroits, une abbaye en ruine, mais dans une belle salle d'une abbaye, et puis un autre endroit qui est une église à ciel ouvert, qui n'a plus de toit, plus de porte, plus de ça, et on accède à cette église en pleine campagne, c'est entouré de champs de patates, de champs de poireaux, pour vraiment y aller. Et là, j'ai mis ces peintures grand format en extérieur, donc livrées à tout, hein, mais ça, c'est ça qui me plaît. Et au vernissage, il y a le curé des paroisses avoisinantes qui est venu. On a discuté, il m'a parlé, bien sûr, du sujet, et puis des conditions religieuses, tout ça. Bon, ça, on peut en parler, mais bref, c'était pas le thème. Ben, c'est pas le propos essentiel. Et donc, ce que j'ai appris, c'est que depuis le vernissage, c'est-à-dire qu'il y a deux mois et demi, et ben, à chaque fois qu'il fait une messe, il finit par dire à sa messe, et puis, il y a, donc, à l'église de Rideauville, un chemin de croix fait par de peinture de Jean-Philippe Burnel. Il faut y aller et il s'exprime en mettant les bras en l'air. C'est beau. Voilà. Je trouve ça absolument génial. C'est une récompense formidable pour moi. Je crois que c'est la chose qui me fait le plus plaisir.
Alors
Voilà.
justement, on enregistre cet épisode, on est début septembre, et tu as une exposition depuis 2 mois, 1 mois et demi, c'est ça maintenant? Depuis
Début juillet,
juillet.
oui. Alors c'est à Cherbourg, c'est l'abbaye Chantraine, l'abbaye du Vœu, qui est un bel endroit dans le centre de Cherbourg. Ouais. Et puis dans le Val de Serre, près de Saint-Valaouf, près de l'île de Tatillon, on va dire, il y a aussi un endroit très très étonnant puisque c'est une église en ruine. Et j'expose en fait dans les deux endroits un chemin de croix qui se complète en fait.
Alors pourquoi un chemin de croix justement? Parce que ça, je me rappelle dans des longues conversations qu'on a eues il y a déjà quelques années, c'était un projet que tu avais, que tu nourris depuis très très longtemps. Et je suis pas, peut-être je peux me tromper, je suis pas sûr qu'il y ait une foi chrétienne qui t'habite de manière illuminée pour faire ça.
Non, je suis pas ni non, j'ai pas. La question s'est posée, on me l'a posée plein de fois pour faire un chemin de croix. Est-ce que vous êtes croyant? J'ai répondu de façon sincère en disant, je me sens pas croyant, mais je me sens pas non plus non croyant. C'est-à-dire que j'ai un questionnement sur ça qui vient sans doute de mon éducation religieuse. J'avais un grand-oncle qui était curé. Donc voilà, il y a tout ça. J'aime les églises. Donc je respecte absolument la religion et en particulier la religion catholique et toutes les autres d'ailleurs, hein. C'est pas pour ça que j'ai fait ça. J'ai fait ça parce que je trouve ça assez extraordinaire comme histoire, le chemin de croix, donc Jésus condamné jusqu'à la croix, etc. Moi qui suis pas un créatif, c'était une façon de récupérer une histoire et de voir comment je pouvais la peindre, la réinterpréter. Je pourrais être très très loin dans la réinterprétation, mais bon, j'ai cherché parce que si j'ai fait ça, effectivement, ça fait longtemps que je voulais le faire, mais surtout parce que je fonctionne à chaque fois par thème. C'est-à-dire que comme je ne suis pas un créatif, j'essaye de partir d'un thème, quel qu'il soit, que ce soit une usine nucléaire, que ce soit, j'ai fait aussi des bonobos, des singes bonobos, Et puis je tourne autour pour voir qu'est-ce que j'arrive à sortir de ce pas. Et ça a été le même principe pour le chemin de croix, sauf que je suis extrêmement encore frustré de ce que j'ai fait. Et je voudrais refaire une suite.
Là oui, bah, Jésus 2, le retour.
Exactement, Jésus 2, le retour.
Est-ce que à chaque fois, quand tu prends un sujet comme celui-ci, comme les bonobos, aussi j'aimerais parler de l'exposition que tu avais faite d'Areva, avec tous ces bonhommes orange qui étaient assez forts, et d'ailleurs tu avais été, je crois, bien soutenu pour cette exposition-là. Dans quelle mesure tu dis, tiens, moi, Jean-Philippe Burnel, je raconte une histoire en plus? Est-ce que le simple fait de peindre, c'est avoir un parti pris?
Je ne sais pas si c'est un parti pris. Moi, je me considère vraiment plus comme un spectateur, interprète de ce qui m'entoure, de mon époque. C'est-à-dire que je crois que si j'apporte quelque chose, c'est simplement le témoignage de ce qui m'entoure, comme d'autres témoignent par la photo ou d'autres. Moi, je témoigne par la peinture de ce qui m'entoure, du chemin de croix.
Le fait est que c'est une interprétation malgré tout. Pardon, je te coupe, mais c'est une interprétation. Donc, c'est un point de vue, une interprétation.
Oui, c'est vrai. Mais je le fais pas. Je le fais en. Comment dire, je mets pas de message là-dedans. J'apporte juste un aspect esthétique aux choses. Après, les gens, ils trouvent ce qu'ils veulent. Moi, sans doute que je le peins. J'ai l'impression de le peindre de façon très ordinaire. Alors peut-être qu'il y a quelque chose que j'apporte à ce que je fais, mais je me rends pas compte. Je suis vraiment comme, on va dire, allez, un reporter photographe. Moi, je suis un reporter peintre. Donc, je témoigne, mais je porte pas de jugement sur ce que j'ai fait. Je cherche pas.
Alors, il y a un petit personnage récurrent dans le Lloydcast qui est une petite souris. Et cette petite souris, elle vient voir comment mes invités travaillent, soit dans leur vie au quotidien, soit dans leur art. Et si cette petite souris vient dans ton grand atelier, parce que t'as un énorme atelier où il y a une balançoire, elle y est toujours?
Elle y est toujours, oui.
Qu'est-ce qu'elle va voir, cette petite souris, lorsque Jean-Philippe rentre dans son atelier? Est-ce que tu as des rituels, par exemple, pour écrire, tu vois, c'est ma déformation. Est-ce que t'as des rituels pour peindre? Est-ce qu'il y a de la musique, ce genre de choses?
Oui, alors déjà, mon atelier est une ancienne menuiserie qui garde encore un peu certaines ambiances de menuiserie, c'est-à-dire qu'il y a un vieil établi, j'ai accroché la balançoire justement sur des crochets qui étaient là il y a très longtemps, parce qu'avant d'être une menuiserie, c'était une ancienne fabrique de glace, c'est-à-dire au 19e siècle, hein, c'est un vieux bâtiment. Et donc, j'ai même un coffre-fort dans mon atelier. Donc en fait j'aime bien l'environnement de mon atelier, et quand j'y arrive, finalement je fais de la musique, j'aime bien y être, même si je n'y fais rien. Et d'ailleurs des fois j'y fais rien, j'ai pas de rituel, sauf quand il fait froid l'hiver, je me couvre parce que ça caille. J'ai pas de rituel. Je me mets sur ma balançoire et je regarde des choses, ouais.
Bah, la petite souris, quand elle te voit après travailler, est-ce que t'es frénétique? Est-ce qu'il y a une énergie, ou est-ce que tu prends le temps de faire un trait, de te poser, de prendre du recul?
Alors, c'est vrai que ça dépend, parce que c'est comme dans tous les ateliers, il y a des parties où on travaille à plat, sur des dessins, des maquettes, des choses comme ça. Et puis, pour moi, j'ai un grand mur, on va dire, sur une hauteur de 4 mètres. Et puis, je sais pas, on va dire, j'ai 5-6 mètres de long, puis j'ai du recul. Et là, j'accroche des toiles libres, c'est-à-dire comme des draps, en fait, que j'agrafe. Et puis là, j'y vais, un peu au gré de mon envie. C'est pour ça que je peins un grand, et des fois, je réfléchis pas trop après comment je peux accrocher tout ça. Mais ce que j'aime bien, c'est cet espace, parce que c'est comme un espace vraiment de récréation. C'est-à-dire que je peux tout faire. Et d'ailleurs, je me souviens d'une journaliste qui était venue il y a longtemps, qui avait dit, ah, c'est bien, votre espace est un lieu de création massive. Donc, je trouvais que c'était rigolo comme terme. Parce que c'est ça. Ça donne plein de possibilités. Trop d'ailleurs, parce que des fois, je commence plein de trucs dans tous les sens.
Bah, moi, j'ai eu la chance d'être une petite souris à un moment, parce que j'adore cette anecdote et je trouve qu'elle te représente tellement. Et moi, ça m'avait tellement choqué. Bref, j'essaye de faire rapide. Mais tu nous avais montré, à Aymeric et moi, une fois, je crois que tu dessinais, tu peignais des scènes de marché du côté de Cherbourg. Et tu nous avais présenté une grande toile. Alors, je ne sais pas de combien de mètres, je ne sais combien de mètres. Mais tu disais, ah, j'en suis pas content, cette toile-là me plaît pas. Et puis moi, je voyais, alors moi qui suis incapable de peindre, qui regarde tous les gens qui sont capables de tenir ne serait-ce une plume et de faire des jolis dessins. Moi, je trouve ça toujours magnifique. Bon, bref. Et là, je voyais ça, et puis je me dis, bah non, attends, c'est vachement bien. Et je te disais, c'était super. Tu me dis, mais non, c'est de la merde, ça n'exprime rien. Et tu étais très fâché auprès de ta peinture. Et je me rappelle qu'il y avait tu avais peint une énorme citrouille en avant-scène, enfin en avant-plan en tout cas. J'ai pas peut-être pas les bons termes, et tu avais pris un marqueur et tu avais commencé à taguer ta propre peinture comme ça avec un marqueur en dessinant un petit bonhomme dessus en disant bah voilà, là ça commence à raconter quelque chose. Et je me dis non mais il est fou ce type, il a passé peut-être des heures à peindre ce truc-là et maintenant il le barbouille avec un marqueur. Et puis tu avais pris la peinture, de toute façon elle me fait chier, tu l'avais prise au sol et tu marchais dessus. Et puis tu disais bon alors je vais vous montrer d'autres trucs. Et en fait tu marchais sur ta propre peinture comme ça en nous montrant les autres peintures. Et je me suis dit mais alors après, quelque part, je réfléchis, je me dis qu'il y a des moments où je suis en colère contre des textes. Alors, c'est plus compliqué parce qu'ils sont sur l'ordinateur, donc je vais pas prendre l'ordinateur qui coûte 2000 balles et marcher dessus parce que ça me ferait mal. Mais je me dis, parfois, j'ai un rapport aussi hyper violent avec la création. Et toi, cette création-là qui était d'un coup effectivement très qui était physique, je me dis, tu avais eu un rapport, c'est un vrai combat de catch quoi entre la peinture et toi.
Eh bien, écoute, ça fait plaisir d'entendre ça parce que c'est vrai que ça correspond bien à ce que ça à ma réaction. C'est ça. Et par contre, justement, derrière ça, c'est pas innocent parce que en fait, je me suis rendu compte et ça, tu vas peut-être rejoindre ce que tu disais sur ton ordinateur, c'est que des fois, on s'évertue dans quelque chose, on veut absolument parce qu'il y a des parties qui sont intéressantes. Et du coup, on se dit, bah, je vais pouvoir garder ça pour améliorer tout. Et puis finalement, des fois, on n'y arrive absolument pas. Et du coup, et en peinture, c'est ça, c'est que la spontanéité, la force, l'énergie qu'il peut y avoir dans un truc au départ, si on continue, parce qu'on n'est jamais content complètement, on va finir par tuer tout le truc. C'est-à-dire qu'en fait, on tue toute l'énergie qu'il y avait. Et si on continue, parce qu'on y a travaillé longtemps, on dit, allez, je continue encore, et ben, souvent, ça marche pas. Donc, faut mieux, c'est ce que je fais, il faut mieux carrément prendre un cutter ou ce qu'on veut, enfin, je sais pas, et le flinguer, le truc, mais le flinguer bien, parce qu'en plus, ça défoule, vraiment, en fait, ce que je veux dire, c'est que il faut rester le propre patron, et des fois, j'ai l'impression, moi, que des peintures commandent et nous en imposent, alors que il faut surtout pas se faire chier avec ça.
Alors, t'en parlais un petit peu tout à l'heure, on parlait de Cherbourg, t'as évoqué légèrement Paris. Justement, je voulais en savoir un petit peu plus sur Marcel Pagnol disait l'ambition, c'est la richesse des pauvres. Et est-ce que tu es quelqu'un de très ambitieux ou pas finalement si ambitieux que ça? J'ai l'impression que parfois, alors c'est vu vraiment de l'extérieur. Aujourd'hui, tu es quelqu'un de reconnu dans Cherbourg, dans toute cette région. Est-ce que tu caresserais l'ambition de sortir de Cherbourg, et c'est absolument pas, il n'y a aucun jugement derrière, ou est-ce que ça te convient et que tu n'as pas envie d'aller autre part, voir autre chose, ni d'essayer de rentrer dans un circuit qui ne serait pas le tien, pas si artisanal?
Oui, alors c'est vrai, bah ça, si, ce serait absolument agréable et intéressant, j'imagine, de rencontrer plein de gens différents. Mais c'est un travail, ça. C'est-à-dire peindre, c'est une chose. Après, se promouvoir ou faire des endroits, aller voir d'autres, prospecter des marchés pour des projets loin à Paris, c'est un travail. Et moi, j'ai pas ce temps-là. Et en plus, je crois pas que je puisse intéresser tant de monde que ça, parce que voilà, je pense que la peinture, c'est assez ringard quand même. Et puis il y a le rapport commerce. Si une galerie ou si quelqu'un s'intéresse à toi, c'est parce qu'il a trouvé son bénéfice. C'est d'abord financier. Donc il y a un rapport marchand qui me gêne. Et donc voilà pourquoi je fais pas ces démarches-là. Et aussi parce que j'ai pas le temps. Parce qu'au-delà de ma peinture, je suis aussi concerné par plein de projets. À travers l'association Trois Angles, avec d'autres amis, on lance des choses, on fait des projets d'exposition d'artistes vivants ou morts, enfin peu importe, qui nous prennent beaucoup de temps. Donc ma vie, elle est vachement bien comme ça. Moi, s'il fallait recommencer, je recommencerais pareil. Hein. Si effectivement je pouvais être connu au-delà de Cherbourg, parce que ça reste vraiment très très restreint, je suis un petit parbouilleur local, pourquoi pas, ce serait bien, mais mon ambition elle est pas là. Pour moi c'est pas effectivement comme tu disais la citation de Pagnol, ça me convient bien cette affaire. Je me sens libre de ce que je fais, je me sens bien dans ce que je fais. Je connais mes limites parce que aussi je m'appelle pas Garouste, hein, je m'appelle pas Rivérol, il y a des très bons artistes peintres français. Vraiment de peinture, hein, mais ils ont une liberté, ils ont une, je me sens très très ordinaire comme peintre, je suis plus un artisan comme je te le disais, un artisan qui témoigne de ce qui l'entoure, et ce que je connais mieux c'est mon coin, donc je crois que je peux mieux témoigner de ce que j'ai autour de moi que d'aller faire un projet à Trifouille des Oies. Je crois que d'ailleurs je pourrais vivre dans un champ et jamais m'ennuyer si j'étais dans un champ avec des arbres. Je crois que j'y trouverais toujours des choses à faire. Je me sens pas coincé à Cherbourg. Je me sens pas prisonnier de ce que je fais. J'ai une chance inouïe d'être comme ça.
Alors on arrive à la fin de cet épisode. À la fin de cet épisode, comme d'habitude, je pose plusieurs questions, les mêmes à tous mes invités. Et tu y réponds aussi simplement que possible. Voilà. Comme tu es quelqu'un d'instinct, tu vas me répondre avec ton instinct. Si tu gagnes au loto, quelle est ta réaction?
Alors, je ne joue pas au loto parce que si je gagne, ce serait scandaleux. Parce que je suis tellement heureux comme ça que je ne veux surtout pas gagner.
Y a-t-il un livre, un film ou une chanson qui a changé ta vie, ou une peinture pour le coup?
Non, rien qui me vient à l'esprit. C'est plutôt plusieurs choses comme ça, mais j'avoue, rien ne. Non, c'est pas aussi important que ça pour moi, le livre, la chanson ou la peinture.
Et si tu n'étais pas peintre, qu'est-ce que tu ferais?
Je pense que je pourrais être jardinier. Je pourrais être. J'ai été technicien dans le nucléaire et j'ai une certaine fierté d'avoir connu le monde du travail à ce niveau-là parce que j'ai l'impression de connaître un univers assez peu connu. Donc je crois que j'aurais pu être n'importe qui d'autre. Mais la peinture, je pense que c'est comme dans toutes les formes d'art dont tu fais partie, dans ce monde-là, on se sent riche de ça. Une fois qu'on est là-dedans, on se demande comment on aurait pu faire sans ça, quoi.
Quel est ton plus bel échec?
Mon plus bel échec, c'est celui qui m'a servi le plus. Si c'est pour la peinture, c'est une expo que j'ai fait avec un ami peintre, un ami photographe, et je me suis senti minable. Et ça m'a donné tellement les boules que ça m'a donné une exigence supplémentaire que j'ai réalisé que j'avais besoin de plus travailler, quoi. Donc c'est un échec de peinture qui m'a donné envie de faire d'autres choses après.
Quel est ton endroit préféré au monde?
En fait, il y en a trois. C'est d'ailleurs l'endroit où je l'ai dit à ma femme, si je me fais incinérer, mais c'est pas sûr, si je me fais incinérer, il va falloir que tu te démerdes pour mettre les cendres à trois endroits. Un, sur le pont de Jonville. Donc c'est dans le Val de Serre, par un vent qui ramène vers la mer. Un autre, donc à Denville sur la plage, pareil. Et un peu de cendre aussi dans le jardin, dans le parc Emmanuelier, qui était le plus bel endroit de Cherbourg, où je vais presque tous les jours m'asseoir sur un banc dessiné quand je passe par là, qui est un petit endroit merveilleux. Voilà. Donc il y a trois endroits. Sont importants.
Il y a un mot américain qui est le motto, qui est en gros l'espèce de devise et de motivation au quotidien. Quel est ton motto?
Je vais prendre le petit déjeuner. C'est ma première motivation du matin. Et ça, c'est le côté bouffe, le côté parce que ça compte. Mais sinon, je crois que c'est d'aller dehors, sentir l'air.
Et enfin, quel est ton mot préféré?
C'est la possibilité du nil. D'ailleurs, c'est Oubrey qu'on a fait un titre de livre. Parce que pour moi, ça exprime vraiment bien, comment dire, toujours cette envie de faire quelque chose qu'on n'a pas encore fait et qu'on va peut-être pouvoir faire. Quelque chose qu'on transforme. Donc c'est le côté île, peut-être, le côté évasion.
Ton actualité c'est jusqu'à quand l'exposition du chemin de croix?
Mi-septembre, et d'ailleurs, c'est fini à l'abbaye par un concert, justement, de Haydn, je crois, enfin, il va y avoir un truc qui va être chouette, parce que c'est un endroit où, justement, on peut écouter de la musique.
D'autres projets?
D'autres projets, des projets pas perso, si j'ai un projet, mais j'en ai tellement que c'est des petites bricoles de rien du tout, mais rien d'important, comme le chemin de croix, pour l'instant, et qui va continuer, et puis on verra.
Si des gens veulent voir ce que tu fais via Internet, comment ils font? Ils te demandent un ami sur Facebook, il y a un site?
Non, j'ai pas de site, mais par contre, si on tape Jean-Philippe Burnel, le peintre, sur Google, on trouve d'ailleurs une petite vidéo sur le chemin de croix.
Merci Jean-Philippe de cet échange.
Merci Lilian de cet échange, qui m'a fait dire des choses qui m'ont fait dire d'avoir dit. Grâce à...
J'espère que tu ne le regretteras pas.
On verra.
Je te ferai écouter l'épisode avant de le mettre en ligne.
Bon, ben,
merci,
bonne journée.
À très bientôt. Ciao Jean-Philippe. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mais tu peux retrouver tous les épisodes précédents sur Apple Podcast, mon blog sur WordPress, PodCloud ou mon Facebook officiel. Et merci de me laisser un petit commentaire si tu veux bien me soutenir. On se retrouve jeudi dans 15 jours. D'ici là, porte-toi bien. Salut la compagnie.